Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 26 janvier 95.
science biologique ne peut pas atteindre l'âme. Elle atteint ce qui est mesurable par un procédé d'expérimentation. Et l'âme n'est pas mesurable. L'âme, si elle existe, elle est source, elle est principe. Ce n'est pas négligeable d'être né le matin à 6 heures, l'heure où on réveille les moines ici, ou au contraire à 7h30, le cours de métaphysique. C'est pas la même chose.
Parce que c'est un médecin.
pour lui-même. Et nous sommes vraiment là en présence, et c'est ça l'intérêt. On est en présence d'un ordre génétique. L'aspect du développement. Quand apparaît tel aspect nouveau de l'embryon. Et nous devons nous dire que nous avons tous, sommes tous passés par là.
Justement, de toute conception.
c'est que si vous dites ça, on n'aura plus l'argent nécessaire pour poursuivre nos recherches. On dira peut-être que c'est une fausse piste, attention. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Je n'ai pas poursuivi parce que je le vois rarement. De temps en temps, il vient me dire bonjour et à ce moment-là, je lui demande où il en est dans ses recherches. C'est intéressant de voir que la science poursuit à tout prix sa recherche pour, je crois, dominer cette question de l'embryon et de la croissance de l'embryon. Et pour moi, c'est un phénomène très particulier de voir cette recherche c'est intéressant à pousser. L'objectivité du savant, l'objectivité du philosophe. Oui. Alors, est-ce que quand j'ai découvert l'âme et la finalité de l'âme spirituelle, est-ce que tout ce que je regarde dans le développement de l'embryon est faussé à cause de la finalité? Ou au contraire, c'est grâce à ça que j'ai l'intelligibilité parfaite? Ou au contraire, pour avoir l'objectivité parfaite, il faut supprimer tout et être uniquement en face du fait qui apparaît et qui est mesuré? Donc vous voyez, il y a deux conceptions tout à fait différentes de la croissance de l'embryon pour le biologiste, pour le philosophe. Alors, si on peut, si parmi vous, il n'y a personne qui est suffisamment calé pour faire ça, ou bien deux ou trois, ça m'est égal, mais j'aimerais qu'on puisse faire ça. Ce serait intéressant. On peut le faire, même si vous n'avez pas, parce que c'est une chose connue maintenant. Moi, je pourrais prendre un bouquin et vous le donner, hein. Mais j'aime mieux que ce soit quelqu'un qui l'a étudié dans la mentalité de la science biologique qui vous le dise. C'est très intéressant. Ça, on peut le faire n'importe quand. Puisque la science biologique donne les dispositions, donne les manifestations qui sont constatables, mais ne va pas plus loin. Elle saisit les liens. Si je pose ceci, cela arrivera. Il y a le psychologue aussi. Et la psychologie aujourd'hui voudrait aller très loin. Vous comprenez que l'ordre génétique du psychologue, qui ordinairement commence à partir de la naissance, sauf ceux qui veulent aller très loin et veulent essayer de comprendre que certaines perturbations au moment de la naissance ou au moment de la conception peuvent avoir des conséquences. Et essayer de comprendre ces conséquences qu'on dénote objectivement, qu'on révèle objectivement, qu'on saisit, peut-être proviennent de cela. Peut-être. Voyez. Donc tout un aspect archéologique de la psychologie. La psychologie est très archéologique aujourd'hui. Retourne. Vous avez certains déséquilibres maintenant, ça provient sûrement de tels chocs. Vous remontez, il y a du vrai, il y a toujours une parcelle de vérité. On quitte la vérité quand on en fait un absolu, parce que c'est un aspect du réel qu'on saisit. Alors, il y a l'aspect génétique du psychologue. Avant la naissance et à partir de la naissance. Et c'est ça surtout qui intéresse le psychologue. Comment on peut dénoter une croissance, une évolution dans le point de vue de la vie, dans le point de vue psychologique, dans la conscience psychologique de celui qui est éduqué. Et le psychologue remarque que l'homme et celui, l'animal, qui a la croissance la plus étonnante. On commence par l'état embryonnaire, par la naissance, et l'homme, le petit de l'homme, le petit de la femme, c'est l'être le plus dénué comparativement aux animaux. Ce qui avait déjà beaucoup frappé Platon. Platon a remarqué ça. Comment se fait-il que le petit de l'homme met si longtemps à se débrouiller tout seul? D'où le kangourou. comme d'un milieu vital, maternel et extrêmement proche, puisque le petit de l'homme n'arrive pas à se débrouiller. Il faut tout lui apprendre. Et pour Platon, c'est là où on voit la naissance de l'art. L'animal n'a pas besoin d'art parce que il se débrouille très vite. Et ces expériences qu'on a faites, vous savez bien que je vous ai déjà dit, en regardant la première année du petit singe, d'un singe évolué, avec le petit enfant humain, je crois les 6 premiers mois, le singe a toujours le prix d'excellence. Et à partir du 6e ou 7e mois, le petit de l'homme se rattrape. Et les premiers mois, le petit singe l'emporte, puisqu'il est beaucoup plus développé. Et c'est vrai, le petit de l'homme a beaucoup plus besoin de dépendance de son milieu et du milieu maternel. On essaie de remplacer le milieu maternel par des infirmières de grand style. On n'y arrive pas. Il y a un lien maternel qui est très très profond. Ça a été vu et constaté. Je vous dis, ça a été constaté dans des pays qui ont voulu appliquer l'idéologie socialiste plénière. Philosophique. qui n'est ni celui du psychologue, ni celui de la science biologique. Alors, autre question. Est-ce que le philosophe doit tenir compte de ce que dit le savant, de ce que dit le psychologue? Il doit en tenir compte pour cet aspect génétique, c'est sûr. Mais ce n'est pas la science qui va éclairer le philosophe. Il doit en tenir compte comme un développement de la cause matérielle. Alors là, oui, ça l'intéresse beaucoup. Et un développement du conditionnement, ce que donne le psychologue. Le psychologue s'intéresse au conditionnement de la croissance psychologique. Il ne regarde pas la finalité. Seul le regard philosophique sur le comment regarde la finalité. Or, tout devenir humain est commandé par la finalité. Et je crois que c'est là où on comprend comment cet ordre génétique du philosophe doit être saisi comme quelque chose d'ultime. Je m'intéresse à la science beaucoup. Il faut s'y intéresser. C'est grand. Mais qu'est-ce que donne la science par rapport à la réalité? Je m'intéresse à la psychologie. Mais que me donne la psychologie par rapport à la réalité? Vous voyez, il faut saisir le hiatus de la connaissance scientifique par rapport à la réalité. Il faut saisir le hiatus de ce que dit le psychologue par rapport à la réalité et situer exactement ce que le savant peut m'apporter, ce que le psychologue peut m'apporter par rapport à ma philosophie. Mais je dois surtout pas abdiquer mon regard philosophique pour dire là, c'est le domaine scientifique, là, c'est le domaine psychologique. Pourquoi ? Parce que le savant donne des quantités de détails et de précision que le philosophe n'a pas. Le psychologue met en pleine lumière certains obstacles, certaines difficultés, certaines luttes que le philosophe risque de ne pas regarder avec assez d'attention. Or, toute croissance se fait dans la lutte. Génétique.